Avec mes notes. C'est pas grave, hein? Je peux le faire sans les notes, mais c'est mieux avec. Voilà, voilà, je l'ai trouvé. Bon, vous savez qu'est-ce qu'on aime faire ici avant de recevoir la parole de Dieu? On aime préparer notre cœur, parce que la Bible est inspirée de Dieu, donc on va pas juste lire la Bible comme on lit n'importe quel autre livre. On va pas écouter une prédication de la parole de Dieu comme on écoute n'importe quel orateur. On va vraiment préparer notre cœur pour recevoir la parole vivante aujourd'hui. Donc, si vous avez une Bible, je vais vous demander de prendre vos Bibles. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, on a préparé une feuille qui est à l'intérieur de votre bulletin et vous allez trouver presque tous les versets de la Bible qui sont imprimés là-dessus, les versets que nous allons étudier ce matin. Donc, je vous invite à prendre votre Bible ou votre feuille. On va juste faire cette déclaration parce que la Bible dit que ce que nous croyons du cœur et qu'est-ce qu'on dit avec la bouche s'accomplit. Donc, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole inspirée de Dieu. Je serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus. Amen. Donc, allons-y à Jean chapitre 13 et on va continuer une série qu'on a commencée il y a 4 semaines sur comment réaliser votre raison d'être. Combien de vous, vous savez que vous êtes ici sur la terre pour une raison? Vous n'êtes pas ici par hasard, même si papa et maman ont dit que vous étiez en accident, vous n'êtes pas vraiment en accident. Amen? Vous êtes ici selon le plan de Dieu et Dieu vous aime. Et le plan de Dieu est merveilleux. En fait, on voit en Éphésiens 2 que vous êtes son ouvrage, son chef d'œuvre. Et vous êtes ici, vous êtes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance afin que vous les pratiquiez. Donc, vous avez besoin, si vous allez être vraiment satisfait, comblé, content, heureux dans votre vie, il faut découvrir votre raison d'être. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment malheureux, c'est parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est comme mon fils, il joue le violon, il a commencé il y a 2 ans, et il faut que vous soyez gentil avec un violon, parce qu'un violon est fait pour une seule chose, pour faire de la musique. Vous êtes d'accord? Je ne laisse pas mon enfant pelleter de la neige avec le violon. Je ne le laisse pas jouer au baseball, c'est dans l'amateur de sport, mon fils aussi, il adore le baseball, le hockey. Mais laisse-moi vous dire, pouvez-vous imaginer qu'est-ce qui arriverait à son violon s'il jouerait au baseball ou à hockey avec son instrument? Qu'est-ce qui se passera? Ça serait brisé, vraiment, vraiment, ça serait plus bon à rien. Et c'est la même chose avec votre vie. Vous êtes fait dans l'image de Dieu, vous êtes créé par Dieu et pour Dieu, et vous êtes ici, vous avez une raison d'être. Mais si vous utilisez votre vie pour faire autre chose, sauf la chose que Dieu a planifiée, vous allez abuser votre vie et abîmer votre vie. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi on a des personnes qui sont tellement abîmées. On a des personnes qui souffrent, qui sont dans la misère, c'est parce qu'ils n'ont pas découvert leur raison d'être. Donc, on a déjà vu plusieurs choses dans la série. On a vu que la première chose pour réaliser votre raison d'être, c'est qu'il faut découvrir une vie nouvelle en Jésus-Christ. Il faut naître de nouveau. Il faut passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Ensuite, on a dit qu'il faut appartenir à la famille. Vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu seul. Vous avez besoin d'être attaché au corps de Christ. Une main qui n'est pas attachée au bras ne peut rien faire. Et un chrétien qui n'est pas attaché à une église ne peut pas rien faire non plus. Donc, il faut découvrir. Il faut appartenir. Et puis, la semaine passée, on a dit qu'il faut grandir. On est né dans la famille de Dieu comme un bébé. Mais il y a trop de personnes qui sont dans le Seigneur depuis 20 ans et qui sont toujours au biberon spirituel. Ils sont toujours dans les couches spirituelles et on a dit qu'il faut prendre une décision pour grandir, pour arriver à la maturité, pour devenir les adultes spirituellement parlant. Amen? Et ce matin, on va continuer et on va voir la quatrième chose. Et ça, c'est qu'il faut pas juste découvrir, pas juste appartenir, pas juste grandir, mais on est là aussi pour servir. Tout le monde dit servir. Voulez-vous être heureux dans la vie? Combien de vous, franchement, Est-ce que vous voulez être heureux dans votre vie? Moi aussi. C'est beaucoup plus de fun d'être heureux que déprimé. Vous êtes d'accord? Alors, ici, en Jean 13, Jésus nous donne une prescription pour comment être heureux dans la vie. Voulez-vous savoir qu'est-ce que Jésus a dit? Lisons ensemble. Jean 13, verset 12, qui dit, « Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, est-ce que vous écoutez? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, on voit que c'est une chose de savoir, c'est une autre chose de faire. Amen? Il faut savoir, mais il faut le faire. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'il faut servir. Il y a beaucoup de gens il y a des choses qu'ils ont la connaissance, mais c'est pas qu'est-ce que tu sais qui change ta vie, c'est qu'est-ce que tu fais. Et là, Jésus nous a donné un exemple à suivre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. C'est qui le boss? C'est qui le patron? Les disciples ou Jésus? Jésus, c'est en fait le Fils de Dieu. Mais Jésus a pris la peine de laver les pieds de ses disciples. Et on se dit peut-être, c'est quoi vraiment la signification? Mais n'oublions pas, à l'époque, eux autres, ils n'avaient pas les chars. Ils n'avaient pas les autobus. Ils n'avaient pas les avions. Ils avaient quoi pour le transport? Les pieds ou les chameaux et les ânes. Et tout le monde utilisait la rue. Les chameaux, les ânes. Et si vous n'étiez pas aussi béni pour avoir une âne ou un chameau, c'est toi qui suivais dans les traces des chameaux et des ânes. Vous êtes d'accord? Et devinez qu'est-ce que vous trouvez sur le chemin. Parce que les chameaux, ils laissaient toujours les belles cartes d'appel. Et souvent, on jase avec notre ami et... Wouh! Oh! Prochaine fois, je vais faire attention, hein? C'est un champ de mine, là. Mais ils arrivent à la maison, à la destination, et il y avait souvent les serviteurs, les esclaves dans la maison. Et l'esclave qui était au plus bas rang, OK? L'esclave des esclaves, c'est lui qui avait le rôle de laver les pieds de tous ceux qui arrivaient à la maison. Pourquoi? C'est une tâche sale. C'est une tâche qui est humiliante même des fois, hein? De laver les pieds, c'est pas comme nous, hein? On pourrait enlever nos bas et nos pieds sont assez propres aussi longtemps que vous avez pris votre bain. Je ne sais pas, hein? On ne sait jamais, hein? Mon frère et moi, il faut que je vous avoue une chose, hein? Mon frère et moi, des fois, on avait les guerres de bas sales quand on était très jeunes. C'est-à-dire que mon frère, une fois, il a gardé ses bas pendant une semaine. Ma mère ne le savait pas, hein? Parce que ma mère est excessivement propre. Mais lui, il appelait ça les bombes. Et puis, il jetait ça dans mon lit. C'est comme, hey, ça sent pas bon, hein? Mais ça, c'est une chose. Mais c'est une autre chose de marcher avec les cartes d'appel entre vos orteils et puis d'arriver à la maison de votre ami et d'avoir un serviteur vous laver les pieds. Mais là, qu'est-ce que Jésus a fait? Lors du repas, il se lève et c'est lui qui a pris un linge et un bassin et c'est lui qui s'est agenouillé devant les disciples pour laver leurs pieds. C'est quelque chose, hein? Je vous ai chatouillé un peu, hein? C'est quelque chose, un acte de service, un acte d'humilité. Et Jésus a dit, le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Je vous ai laissé un exemple à suivre. Si je vous ai lavé les pieds, c'est à vous maintenant de vous laver les pieds les uns aux autres. Amen? Donc c'est vraiment, qu'est-ce que Jésus a dit? C'est que si vous savez ces choses et si vous faites ces choses, vous serez heureux. Voulez-vous être heureux dans la vie? Apprenez à servir les autres. Amen? Et il y a trois choses juste pour commencer, pour mettre le fondement de ce message ce matin, qu'il faut savoir à propos de notre service. Et on ne va pas prendre beaucoup de temps là, parce que j'ai sept choses à vous montrer dans une minute aussi. Mais on voit dans la parole de Dieu que vous êtes appelés à servir. Tout le monde dit « Je suis appelé à servir ». Ce n'est pas un choix. Dans le fond, c'est un appel. C'est une chose que Dieu nous a demandé de faire. Est-ce que vous êtes d'accord que les paroles de Jésus sont les paroles divines? Et quand Jésus a dit, « Je vous ai laissé un exemple à suivre. Si je vous ai lavé les pieds, c'est à vous de vous laver les pieds les uns aux autres. » C'est un commandement. C'est un appel. Il faut le faire. Amen. Et si vous ne le faites pas, vous ne serez pas heureux dans la vie. Et en fait, une autre chose qu'on voit, c'est que vous êtes doué pour servir. Tout le monde dit, je suis doué pour servir. C'est-à-dire que Dieu a donné un don à chacun de nous. Nous avons une grâce spécifique pour servir dans le corps de Christ. Et si vous voulez être heureux dans la vie, il faut découvrir votre don. Et il faut mettre votre don au service des autres. Il y a même un verset dans la Bible, et c'est marqué là en 1 Pierre 4, verset 10. Comme les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service, soulignez la phrase, au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, c'est-à-dire que chacun de nous, nous avons un don. Peut-être vous ne savez pas c'est quoi, peut-être vous ignorez votre don, mais vous avez un don si vous êtes en Jésus-Christ. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc vous êtes appelés à servir et vous êtes doués pour servir. On a même tout un cours qu'on donne qui s'appelle « Découvrir la vie comme son serviteur ». Et là, on vous aide à découvrir vos dons. Je vous encourage à vous inscrire. Mais vous serez, troisièmement, récompensé pour avoir servi. Vous êtes appelé à servir, vous êtes doué pour servir, et selon la Bible, vous serez récompensé pour avoir servi. Combien de vous aimeriez arriver devant le trône de Dieu, après avoir passé votre vie ici sur la terre, combien de vous aimeriez vraiment voir Jésus face à face et entendre le Seigneur dire, « Bien fait, bon et fidèle serviteur. » Combien de vous aimeriez recevoir une récompense de la part du Seigneur Jésus lui-même? Les plus grandes récompenses sont réservées pour ceux qui ont appris la leçon de servir. Amen? Et il y a même un verset ici qui dit en Matthieu 23, 11 et 12, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Mais dans le royaume de Dieu, le plus grand, celui qui a le rang le plus élevé, est celui qui sait servir. Amen. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et même pour donner sa vie comme rançon. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Donc comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on peut suivre à l'exemple de Jésus-Christ? Je vais vous donner aujourd'hui sept étapes pour servir à l'exemple de Christ. Et toutes ces choses se trouvent en Philippiens chapitre 2. Si vous voulez aller à Philippiens chapitre 2 avec moi. En Philippiens chapitre 2. Alléluia. Vous êtes appelés à servir, vous êtes doués pour servir et vous serez récompensés après avoir servi le Seigneur et les autres avec vos dons. Alléluia. Moi, je veux être heureux dans la vie, donc c'est pourquoi il faut suivre à l'exemple de Jésus-Christ. Mais en Philippiens chapitre 2, on va commencer en verset 3. Et je lis dans la Bible français courant. La parole de Dieu dit, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le doit quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, c'est-à-dire qu'il était Dieu lui-même, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Comment on dit serviteur? Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettant à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus est Seigneur. Tout le monde dit, Jésus est le Seigneur. Alléluia. Donc, on voit ici vraiment l'attitude que le Seigneur nous demande à émuler et à imiter. Si vous voulez être heureux dans la vie, je vais vous donner ces 7 étapes. Et encore, je vous encourage à prendre ces choses, méditer ces choses, et pendant toute la semaine et les mois à venir, méditer et mettre en pratique ce message, et ça va vous rendre heureux. Ça va vous aider au travail. Ces principes, si vous pouvez appliquer ces principes dans le contexte d'un mariage, par exemple. Combien de vous savez que c'est pas toujours évident en 2003 de rester marié avec quelqu'un? C'est vrai, n'est-ce pas? Mais voici 7 étapes qui vont vous aider à rester marié. Amen? Voici 7 étapes qui vont vous aider à avoir une promotion au travail. Vous êtes tanné d'être au rang le plus bas au travail? Aimeriez-vous être contremaître ou encore plus, peut-être un jour propriétaire de la compagnie? Les étapes que je vous donne, ça c'est le chemin à suivre pour arriver là où le Seigneur veut que vous soyez. C'est comme un paradoxe, parce que dans le monde, c'est pas comme ça. Dans ce monde aujourd'hui, on pense que si on veut arriver en haut, il faut marcher sur les têtes de tous ceux qui sont déjà en bas. Vous êtes d'accord? Mais c'est pas comme ça. Selon la parole de Dieu, si vous voulez arriver en haut, placez-vous en bas. Celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé. Ce sont les principes bibliques qui marchent. Numéro 1, ne servez pas pour être vu des hommes. Comme on a déjà lu ici en verset 3, ne faites rien par esprit de rivalité ou avec un désir de briller devant les autres. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Est-ce que c'est pour être vu des hommes, pour que tout le monde puisse dire, oh, qu'il est bon ou qu'il est gentil? Si c'est le cas, vous n'allez pas arriver là où le Seigneur veut que vous arriviez. En fait, Colossiens 3, 22, dans la parole vivante, dit « Serviteurs, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, non seulement quand ils ont les yeux sur vous, avec l'idée de gagner leurs bonnes grâces, les bonnes grâces, vous n'avez pas seulement à plaire aux hommes, servez-les avec sincérité et droiture, parce que vous révérez le Seigneur. » Le troisième verset dans le Louis II dit, « Tout ce que vous faites, faites-le du bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Amen. Quand on fait quoi que ce soit dans la vie, on ne devrait jamais le faire pour être vu des hommes. Pour ceux qui travaillent dans les usines, ou pour ceux qui travaillent dans les bureaux, pour ceux qui travaillent n'importe où, si vous faites votre travail seulement quand le patron est dans le bureau, ou seulement quand le contremaître est là, et là, vous allez vraiment leur montrer que vous êtes un bon travailleur, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il faut comprendre, si vous serez élevé, c'est Dieu qui va vous élever, pas le patron, pas le contremaître. Amen? Mais si vous faites tout ce que vous faites du bon cœur, comme si c'est pour le Seigneur lui-même. Et en fait, Jésus a dit, ce que vous faites, au plus petit de ses frères, tu le fais à lui-même. Si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un au nom du Seigneur, c'est comme si tu viens de donner un verre d'eau à Jésus-Christ lui-même. Amen. Donc, servez du bon cœur comme pour le Seigneur et pas juste pour être vu des hommes. Numéro 2, par humilité, considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Voulez-vous être un vrai serviteur de Dieu? Pensez aux autres comme étant vraiment supérieurs de vous-même. Est-ce que ça veut dire que nous avons une basse estime de soi? Oh, moi, je suis un bon à rien, je suis un ver de terre, je peux pas faire grand-chose pour les autres. Non. Vous réalisez que je suis enfant de Dieu, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis vraiment membre de la famille royale, mais je place quand même mes frères et mes sœurs et même les autres au-dessus de moi-même. Et si je peux faire ça vraiment avec sincérité, ça c'est une prescription, une recette pour le succès et le bonheur dans la vie. Amen? C'est important. Il y a plusieurs versets qu'on a déjà lus et dans le Philippiens chapitre 2, mais aussi en Romains 12, 10, c'est marqué par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Il faut honorer les autres dans la vie. Et laisse-moi vous dire, surtout dans le mariage, c'est important. Laisse-moi vous dire, si toi tu peux regarder ta femme ou ton mari en pensant elle ou il est plus important que moi, ses besoins sont plus importants que moi, elle est précieuse ou il est précieux, si vous pouvez avoir cette attitude du serviteur, ça va vous aider à avoir du succès et à avoir la joie dans votre mariage. Et ça va de pair avec numéro 3. Servez d'abord les intérêts des autres. C'est ça que Jésus a fait, n'est-ce pas? Jésus, par humilité, il a regardé les autres comme étant supérieurs. Et ici, on voit que Jésus aussi, au lieu de servir ses propres intérêts, il a servi nos intérêts. Est-ce que Jésus est mort sur la croix pour ses péchés ou pour nos péchés? Pourquoi est-ce qu'il a souffert tant? Parce qu'il nous a aimés et parce qu'il nous a honorés. Amen. Et ça encore, voulez-vous avoir le ciel sur la terre dans un mariage? Voici la recette. Au lieu de chercher vos intérêts, que ce soit dans une relation sexuelle, que ce soit dans une relation dans n'importe quel domaine du mariage, parce que, laisse-moi vous dire, il y a trois choses dans un mariage, les plus grandes choses qui peuvent nuire, c'est l'argent, la communication et la sexualité. N'est-ce pas vrai? Mais imaginez, si dans tous ces trois domaines, si un homme penserait d'abord à sa femme, c'est quoi dont elle a besoin au niveau financier, au niveau de la communication, au niveau sexuel même. Et si une femme penserait la même chose, c'est quoi que mon mari, c'est quoi dont il a besoin? Et si les deux travaillent très fort pour faire plaisir à l'autre, et si chaque personne se met au service de son partenaire dans le contexte du mariage, ça, c'est une recette pour le ciel sur la terre. Amen? Même chose au travail, avec vos collègues, avec votre patron. On cherche l'intérêt de la compagnie. On cherche l'intérêt des collègues. Dans une église, c'est quoi la meilleure chose pour l'ensemble de l'église? C'est quoi la meilleure chose pour mes frères et mes sœurs? Je ne cherche pas mes intérêts, mais je cherche leurs intérêts. Amen? Numéro 4. Prenez Jésus-Christ comme votre modèle. On l'a vu en Philippiens 2, que c'est Jésus qui est venu et il a pris une décision de devenir homme et de devenir un serviteur. Il nous a donné un exemple à suivre. Comme c'est marqué en 1 Jean 2:6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Convenez-vous, vous êtes enfant de Dieu et vous êtes en Jésus-Christ ce matin. Levez la main si vous êtes en Jésus. Si vous êtes en Jésus-Christ et vous dites que vous êtes chrétien, vous avez une responsabilité de vivre comme Jésus a vécu sur la terre. De marcher comme il a marché. C'est pourquoi vous avez entendu en anglais, il y a un dicton WWJD. Vous savez c'est quoi? What would Jesus do? Que ferait Jésus à ma place? Je pense qu'on a besoin de se poser cette question à chaque jour, à plusieurs fois par jour, dans chaque situation. Que ferait Jésus à ma place? Vous avez une décision à prendre dans votre mariage, au travail, n'importe où, dans l'église, et vous avez un choix à faire entre servir vos besoins ou servir les besoins du groupe ou servir les besoins de votre partenaire. Que ferait Jésus à ma place? Parce que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Oui, mais c'est sale! Oui, mais ça pue! Oui, mais c'est dégueulasse! Que ferait Jésus? Amen? Et je n'ai pas dit que c'est facile pour la chair, parce que la chair n'aime pas laver les pieds et enlever les cartes d'appel. Elle n'aime pas ça pantoute. Mais, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de marcher dans les traces de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus est notre modèle. Et ça va de pair avec numéro 5. Ne pensez jamais que vous êtes trop grand pour servir. C'est ça qu'on a lu, n'est-ce pas, en Philippiens chapitre 2. Peut-être on peut le voir encore, versets 5 et 6. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Je veux que vous saisissiez la réalité de qu'est-ce que Jésus a fait. Jésus est Dieu Tout-Puissant. Amen. Avant que le monde fût, Jésus était avec le Père. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et le monde entier a été créé par Dieu. C'est Jésus qui a créé les hommes. C'est Jésus qui a créé les pieds. C'est Jésus qui a créé les chameaux et les ânes. C'est lui qui était le créateur de tout l'univers. C'est lui qui a créé même la poussière de la terre. C'est lui qui a créé l'eau avec laquelle il était prêt à laver les pieds de ses disciples. C'est Jésus qui a tout créé, mais il s'est humilié lui-même. Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Pensons jamais qu'on est trop grand pour une tâche quelconque. Amen. Des fois, dans une église même, il y a des gens qui veulent prêcher, les gens qui veulent chanter, faire de la musique, parce que c'est très visible. Mais je remercie le Seigneur pour les personnes qui viennent et disent, tu sais, moi, je serais prêt à laver les planchers. Je serais prêt à faire les toilettes. Je serais prêt, et il y en a. Merci Seigneur, on a beaucoup de serviteurs dans cette église. N'est-ce pas merveilleux? Les personnes qui réalisent que qu'est-ce que je fais quand je passe la mop ou quand je balaye le plancher, c'est un service important. Quand je change une couche dans la pouponnière, quand je rends service, je suis en train de servir Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Et même ceux qui chantent, je sais que les gens qui sont ici sur l'estrade sont les personnes qui ont un cœur pour faire n'importe quoi aussi. Ils ont fait d'autres choses. Ils ont déjà fait le ménage. Ils ont déjà nettoyé, fait l'œuvre dans la pouponnière. Amen. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que les personnes soient assez matures de dire, Seigneur, peu importe qu'est-ce que tu veux que je fasse, même si ça pue, même si c'est pas agréable, je suis prêt à servir mon mari, ma femme, mon église, mon patron au travail. Je suis prêt à rendre service. Amen. Et c'est très important. On n'est jamais trop grand pour quoi que ce soit. Numéro 6, par obéissance. Soyez prêts à faire les sacrifices. Parce que Jésus, quand il a servi la race humaine avec vraiment la mort sur la croix, c'était un sacrifice. Il ne voulait pas, sa chair ne voulait pas mourir. Sa chair ne voulait pas, c'est pourquoi il a dit, Seigneur, il a dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Combien de vous, vous savez que si vous allez être heureux dans la vie, des fois, ça va prendre des sacrifices. Et un sacrifice, ce n'est pas une chose négative. Je pense qu'on a besoin de renouveler notre intelligence. On ne perd jamais quand on fait un sacrifice. On gagne. Amen? Pourquoi? Parce que quand on donne, on reçoit. Jésus a donné sa vie, mais qu'est-ce qu'il a reçu? Une famille. Il a reçu une famille grande et glorieuse, des personnes de chaque tribu, de chaque famille de la terre. Et au ciel, on va pour éternité louer et adorer son nom, parce qu'il a fait un sacrifice. Amen. Et quand vous faites un sacrifice pour votre mari, pour votre femme, pour votre patron, pour vos collègues, pour votre église, laissez-moi vous dire une chose, quand vous faites un sacrifice par obéissance, je n'ai pas dit de faire des sacrifices, d'avoir un genre d'attitude de martyr, que oh, je vais juste souffrir et faire tout ce que je peux pour me rendre misérable, pour prouver à Dieu que je suis vraiment quelqu'un. Non, 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 non. Ne fais pas les choses de même, mais avec dignité, par obéissance, quand le Seigneur nous demande de faire quoi que ce soit, on dit, oui, Seigneur. Vous voulez que je lave les pieds de mes frères, mes sœurs, je vais le faire. Peut-être, comment est-ce qu'on peut laver les pieds des autres dans l'église? Peut-être c'est en rendant service. Ils ont besoin de gardiens, ils ont besoin de lift, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'encouragement. Des personnes qui sont malades, ils ont besoin d'avoir les mains imposées. Il y a des personnes qui ont toutes sortes de besoins et on devrait, à l'écoute de l'Esprit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Peut-être qu'il y a même des personnes qui devraient être là ce matin, mais qui ne pourraient pas être là. Si vous remarquez qu'il y a des personnes qui ne sont pas là, peut-être que c'est une maladie ou quelque chose, prenez le téléphone, prenez le volant, allez les voir, contactez les gens. Et imaginez si tout le corps agirait de même. Ça serait merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia! Nous sommes au service des autres. Et numéro 7, fiez-vous au Seigneur pour les promotions. Fiez-vous au Seigneur pour les promotions. C'est qui va vous élever au temps convenable? 1 Pierre 5, 6 dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Ne cherchez pas à vous élever. Abaissez-vous avec, pas en disant, « Oh, je suis en vain. » La seule chose que je peux faire, c'est de laver les pieds. Non, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes fait dans l'image de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu. Vous êtes membre de la famille royale. Vous êtes digne, parce qu'il vous a rendu digne. Amen. Mais, vous n'êtes pas trop grand. Si le Fils de Dieu n'était pas trop grand pour venir et pour servir, nous ne sommes pas trop grands non plus. Mais sachez une chose, que c'est impossible de vous mettre au service de Dieu et des autres sans être élevé. Le Seigneur va voir votre cœur. Il va voir votre humilité et le Seigneur va vous confier les choses dont vous désirez. Amen. Mettez-vous au service des autres. C'est la recette pour une vie heureuse. C'est la recette du succès dans cette vie. Servez-vous les uns les autres. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Oui, mais ça pue. Fais-le quand même. Faisons-le quand même. Amen. Alléluia. Et ça peut être des choses simples. Comme je dis, dans un mariage, maman et papa sont là et on commence à sentir que la couche est sale. On devrait dire, « Oh, je vais le faire. Non, moi, je vais le faire. » Au lieu de, « Oh, chérie, peux-tu? » Amen. Ou quand quelque chose arrive au travail, un job à faire, un job qui est moins agréable, quelqu'un a besoin de le faire. Les chrétiens, les hommes et les femmes de Dieu devraient être les premiers à dire, « Je vais le faire. » Amen. Dans une église, il y a quelque chose à faire. On devrait tous dire, « Seigneur, est-ce que tu veux que je le fasse? » Il n'y a pas une tâche qui est trop petite. Je ne suis pas trop grand pour faire quoi que ce soit. Je suis ton enfant. Je suis appelé à servir, doué pour servir. Et je serai récompensé pour avoir servi. Amen. On va fermer les yeux, on va prier ce matin pour terminer. Alléluia. Si Jessica peut venir, elle va nous servir avec son don au piano. Fanny va venir nous servir avec son don. Alléluia. Ce sont des choses pratiques, mais ce n'est pas qu'est-ce que tu sais qui fait la différence, c'est ce que tu fais. Jésus lui-même, dans le passage Jean 13, il a dit, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit cette semaine et pour les semaines à venir, on va demander au Seigneur de nous aider. Oui. Oui, tu as quelque chose? OK. Alléluia. On va juste continuer à jouer la musique doucement.
Je vous remercie d'avoir prié pour moi. J'ai été attaqué. J'ai une femme merveilleuse qui a prié pour moi, mais je veux tout vous remercier. C'est la plus belle église que j'ai jamais été dedans, celle-ci. Je peux servir le Seigneur en disant cela. C'est dans cette église que j'ai appris que le faible ne dise pas qu'il est faible, mais qu'il dit qu'il est fort. Seigneur Jésus, je suis fort. Le diable est venu vers moi un jour et j'ai entendu à l'effet d'une voix audible. Ça fait assez longtemps que tu as dit que tu vas mourir. je ne mourrai pas cette année. Je suis dans cette juste pour servir. Jusqu'à ton retour.
Amen. Alléluia. On va juste éteindre nos mains vers Donald ce matin. Il était vraiment, il avait une maladie assez grave qui est attaquée son cœur, mais au nom de Jésus, Seigneur, on se met en accord avec lui. On a déjà prié pour lui et toute cette église, on l'entoure avec notre amour. Et on sait que par les meurtrissures de Jésus, Donald a été guéri de la sommet de sa tête jusqu'au plan de ses pieds. Merci que son sang est purifié au nom de Jésus. Que toute infection dans son sang doit quitter au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Quand tu écoutes, l'Église de Jésus prie. Et au nom de Jésus, on déclare que par les meurtrissures de Jésus, Donald a été guéri et il est guéri. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va chanter un chant pour terminer. Puis je vais aller à la porte pour vous donner la main, mais n'oubliez pas les billets pour le déjeuner espoir. Nous vous aimons et on va servir le Seigneur. Nous sommes sauvés pas pour s'asseoir, mais pour servir. Amen.